les conséquences écologiques sont évidemment la dévastation de la forêt, la contamination des rivières par le mercure qui est utilisé pour amalgamer l'or et par les hydrocarbures, chose qu'on dit très peu, mais des milliers de litres par jour qui sont déversés dans la terre et dans les rivières, qui sont les huiles de vilange, qui sont les émanations de pétrole. Il y a des facteurs de contamination énormes. Quand on regarde la photo satellite de la région, on voit ces énormes blessures dans la forêt. On dit que c'est réversible, mais à très très long terme. Surtout, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les conséquences sociales. Vous avez donc des centaines et des centaines de jeunes ou de paysans des Andes, ou même des régions des bidonvilles, des grandes villes, qui viennent chercher de l'or, ou qui viennent comme ouvriers de chercher de l'or, et qui disparaissent parce que la règle, c'est le silence. Quand les ouvriers se noient ou sont aplatis par les gravats qu'eux-mêmes provoquent avec des jets très puissants, on les laisse là et personne ne dit rien, on ne sait même pas qui c'est. Donc ces gens, quand ils entrent dans la région du Madre de Dios, ils ne sont plus personne. Pratiquement, ils n'existent plus. On les connaît uniquement par des surnoms. Les propriétaires de mines n'enregistrent pas avec leur nom et leurs documents d'identité. Donc il y a une quantité de disparitions annuelles que je calcule autour des 250 à 300 personnes par année qui disparaissent. En plus de ça, l'alimentation, la question sanitaire, les maladies tropicales, le manque total d'hygiène, tout ça évidemment ça fait partie du tableau. Et alors pour les femmes, c'est encore pire, parce qu'en plus de ces situations de maladie et d'hygiène et de manque d'alimentation, eh bien évidemment, elles sont trompées en les amenant comme cuisinières ou comme serveuses dans les restaurants des campements, et puis elles terminent dans la prostitution ou dans la traite des femmes. Donc. Et puis il y a pas mal qui sont en dessous de 18 ans d'ailleurs.
Et donc vous, votre association donc, qui s'appelle Apronia, elle vient en aide donc, à ces enfants et à ces jeunes victimes des abus donc, que génère cette fièvre de l'or. De quelle manière exactement votre association vient en aide à ces personnes ?
Notre association, c'est un peu parallèle à ça. C'est-à-dire qu'on travaille évidemment dans tout ce qui est la question des droits de l'homme, on travaille dans la question de la sauvegarde de la jeunesse dans les régions des chercheurs d'or, mais notre association, elle s'occupe de tous les enfants jeunes qui sont en situation de risque ou qui sont en situation d'abandon ou qui sont orphelins. Quelle que soit leur origine, que ce soit des chercheurs d'or ou que ce soit les conséquences que tout le monde connaît des désastres au niveau des couples. Ici, il y a un taux d'abandon dans les couples qui voisine le 70%. Ce qu'on fait, c'est finalement, comme toujours, une goutte d'eau dans la mer parce qu'on a plus de 300 à 400 demandes d'internement d'enfants et de jeunes abandonnés. L'association, si vous voulez, elle est plus large que la question des chercheurs d'or. Mais évidemment, dans la zone des chercheurs d'or, c'est là qu'il y a le plus de problèmes sociaux et d'abandon aussi. Actuellement, il y a seulement 72 jeunes. On en a une vingtaine qui sont aux études supérieures. Donc, à 18 ans, on ne les abandonne pas. Ça fonctionne exactement comme une famille. Au lieu d'avoir deux ou trois enfants, on en a 70. Ils vont à l'école du quartier, ils reçoivent leurs amis, ils vont chez leurs amis, ils font leurs études. S'ils ont des aptitudes spéciales pour la musique, ils font de la musique ou de la gymnastique. Donc comme une famille, et quand ils ont 18 ans, alors on les suit jusqu'à la fin.
L'exploitation des réserves aurifères est la principale activité économique de cette région de Madre de Dios, mais les conséquences, vous l'avez dit, en sont trop néfastes. Est-ce que cette région recèle d'autres potentialités, et si oui, lesquelles ?
Ah oui, alors beaucoup, oui, il y a beaucoup de possibilités. Moi, personnellement, comme beaucoup, on désirait que les chercheurs d'or s'en aillent, que le prix de l'or tombe, et puis que tout ça soit fini, mais c'est impensable d'essayer sans travail, je ne sais pas combien de mineurs il y a actuellement, je pense autour des 50 000, c'est impossible du jour au lendemain de les laisser sans travail. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour faire une exploitation beaucoup moins nocive, mais on ne peut pas penser la supprimer pour le moment. Alors les autres possibilités, évidemment, il y a les possibilités traditionnelles d'ici, qui sont le bois, qui sont l'exploitation de la noix du Brésil, et puis les cultures habituelles, qui sont celles du riz, celles du maïs, etc. On peut aussi travailler tout ce que la forêt vierge donne comme produit. On peut travailler sur les bois de teck, on peut travailler le cacao. Il y a ici une plante de cacao qui est gourmet, qui est très très prisée. on mise un peu sur des produits qui ont de bonnes valeurs ajoutées et il y en a plus de 60. Mais alors pour ça, il faut créer des petites industries qui occupent peut-être chacune 50 ou 100 employés et avoir une énergie électrique beaucoup plus stable parce qu'on a tous continuellement des coupures de courant et il nous manque, c'est le manque d'énergie. Maintenant, on a des bonnes voies de communication puisqu'on ils ont construit la route interocéane, celle qui va du Pacifique à l'Atlantique, qui passe par ici. Et bon, les communications étant bonnes, il manque plus que l'énergie. Avec une bonne énergie, on pourrait créer des petites industries qui permettraient une très bonne alternative à l'or.
L'année dernière, on a compté à peu près 237 conflits sociaux au Pérou. 139 concernent des questions socio-environnementales liées à la question des mines. Alors, la contestation sociale, entre guillemets, des mines, est-ce que c'est un phénomène nouveau ?
C'est un phénomène nouveau dès le moment où il s'appuie pour des raisons écologiques ou des raisons de protection de l'environnement. Ça, c'est effectivement nouveau. Mais évidemment, c'est utilisé par les politiciens ou par les gens qui veulent arriver au pouvoir comme un instrument de domination, une espèce de chantage qui permet aux leaders sociaux de se profiler grâce à l'environnement. Alors, est-ce que vraiment c'est l'environnement qui est la cause du conflit ? Ça, c'est encore à vérifier. Mais dans bien des cas, c'est vrai que c'est un changement. Avant, les gens se battaient pour défendre des situations économiques ou salariales ou des injustices au niveau des droits de l'homme. Et maintenant, ici au Pérou du moins, il y a des quantités de conflits qui ont leur origine dans la défense du territoire en ce qui concerne ses capacités d'exploitation et de ses ressources. Donc la défense des ressources naturelles devient un motif de protestation sociale. Ça, c'est probablement nouveau. Ça a été préparé depuis longtemps par les organisations non gouvernementales et puis l'Église en particulier qui s'y est mis un petit peu sur le tard. Je protestais contre l'exploitation des mines depuis 1996 et j'ai pas du tout été écouté. Ça date d'il y a seulement, je sais pas, 8-9 ans que tous les journalistes se préoccupent actuellement de la situation du Madre de Dios. Mais il a fallu 15 ans pour que ça bouge. Personne ne voulait en entendre parler. Je pense que c'est le désir de protéger les compagnies américaines. C'est toujours le problème. Ce qui se passe à Cajamarca avec la mine Conga, c'est aussi une compagnie américaine qui est derrière. Le président ne sait pas comment se prononcer. S'il dit « Conga ne va pas », alors il a les investisseurs étrangers, spécialement nord-américains, sur le dos. Et s'il dit « Conga va », alors il a toute la région de Cajamarca sur le dos. Justement, l'Église a été appelée comme médiatrice maintenant. On va voir si, grâce à elle, on arrive enfin à une solution qui soit équilibrée.